Bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs de cette conférence de me permettre d'être avec vous pour mener ces réflexions très fructueuses sur la diversité de genre. Alors, ma communication aujourd'hui s'inscrit dans le champ donc, de l'anthropologie juridique et se propose d'aborder ici de manière exploratoire à l'aide de méthodes qualitatives, la question de la féminisation de la magistrature en Belgique francophone et des représentations qui sont véhiculées autour de la question du genre au sein même de cette magistrature, principalement par le biais d'entretiens qui ont été menés avec des juges, hommes et femmes, de l'ordre judiciaire belge. Alors, quelques petites précision méthodologique. Tout d'abord, vous dire que ces entretiens ont été menés au sein des tribunaux de première instance de Liège et Bruxelles. Alors, pourquoi les tribunaux de première instance ? Ce choix n'est évidemment pas anodin, puisque lorsque l'on regarde les statistiques produites par le service public fédéral de justice, qui ont été notamment évoquées par Pascal Viel hier, il s'agit, avec les tribunaux du travail et plus récemment avec les tribunaux d'application des peines, des seules juridictions du pays où les femmes sont aujourd'hui majoritaires. Et donc, elles y représentent 56% des femmes, ce qui est un pourcentage beaucoup moins élevé que dans certaines autres juridictions, comme vous pouvez le voir sur la diapositive. Alors, il ne s'agit donc plus ici de s'interroger sur le déficit des femmes au sein de la magistrature, comme c'était le cas jusqu'ici pour une grande partie de la littérature anglo-saxonne et aussi francophone, mais bien d'aborder le phénomène en fait exactement inverse de surféminisation de la fonction, comme l'ont déjà fait certaines chercheuses françaises, je pense évidemment à Anne Boisgel, mais aussi à Céline Bessières et Muriel Mille ou Marlène Kakuobito. Alors, les défis que pose cette surreprésentation des femmes au sein des tribunaux de première instance me semblent intéressants dans la mesure en fait, où ils demandent en quelque sorte de retourner les arguments contre les arguments qui ont été développés jusqu'ici contre eux-mêmes et de prendre le contre-pied des questions qui sont habituellement posées. Donc, on va par exemple se demander comment s'explique la présence majoritaire et non plus minoritaire des femmes au sein des tribunaux de première instance, ou on va par exemple se demander quel est l'impact non plus de la simple féminisation mais bien de la surféminisation sur l'exercice de la fonction. Alors malheureusement, faute de temps, toutes ces questions ne pourront pas être abordées dans le détail des résultats qui ont émergé de l'étude que j'ai menée et j'ai ici décidé de me limiter à vous présenter deux points spécifiques qui ont été émergés de la recherche, à savoir d'une part la question du contenu qui est donné au devoir d'impartialité au regard de la notion de genre et d'autre part la question du genre, de l'influence du genre dans le contentieux familial. Alors, autre petite précision, il s'agit donc d'entretiens semi-ouverts qui ont été menés avec 10 juges des tribunaux de première instance et une certaine parité a été respectée dans l'échantillon interrogé, puisqu'il y a une moitié de juges qui vient du tribunal de Liège, l'autre du tribunal de Bruxelles, une moitié de juges qui est affectée au contentieux de la jeunesse et l'autre qui est affecté qui sont tous affectés à des fonctions différentes. Et alors, la moitié des juges qui sont des femmes et l'autre moitié des hommes. Vous dire aussi que la lecture de l'ouvrage de Sally Kenny, Gender and Justice, m'a amené à essayer de mobiliser la question du genre davantage en tant que processus de construction sociale, plutôt que de traiter le sexe comme une variable en tant que telle. Cette étude essaie donc de partir du point de vue des principaux acteurs de la question qui nous occupe pendant ces deux jours, à savoir les juges eux-mêmes, et s'interroge sur la manière dont les magistrats, hommes et femmes, perçoivent et se perçoivent autour de la question du genre. Évidemment, plusieurs critiques peuvent être adressées à cet échantillon de magistrats, à cette étude et à l'échantillon qui est pris. On pourrait évidemment considérer qu'il est peu représentatif, qu'il s'agit d'auto-analyse des répondants qui ne sont pas contrebalancés par des observations empiriques. Alors, il va de soi que des précautions doivent être prises dans l'interprétation et la généralisation des données que je vais vous présenter, mais j'aimerais tout d'abord donc rappeler le caractère exploratoire de cette étude, qui me semble permet quand même de mettre en lumière certains enjeux qui n'ont encore presque, enfin une question qui n'a presque pas été abordée en Belgique, en tout cas francophone, et elle permettra peut-être de poser les bases de recherches futures qui seraient plus approfondies autour de la question du genre dans la magistrature. Alors, donc là, à propos de la première question que je voudrais traiter avec vous aujourd'hui, donc une partie des questions de l'entretien visait à déterminer si l'on peut inférer du genre des tendances divergentes dans la manière d'appréhender la fonction du juge en général. Et je voulais vous faire part ici des résultats qui ont émergé en relation avec la question de l'impartialité. Alors, en effet, à première vue, les magistrats donnaient une conception très générale, assez convergente de l'impartialité. Mais dès que j'attaquais un peu plus en profondeur le contenu de cette impartialité et que je leur demandais un peu quelle conception ils en avaient, alors on s'éloignait fortement de cette première convergence. Je suis arrivée à d'autres constatations beaucoup plus contrastées, pardon, puisque donc quatre juges femmes, donc quatre femmes sur cinq, ont spontanément esquissé une vision de l'impartialité qui était davantage tournée vers l'extérieur, tandis que l'ensemble des hommes se sont cantonnés à une vision beaucoup plus interne de cette impartialité. Alors, qu'est-ce que je veux dire par tourner vers l'extérieur ou tourner vers l'intérieur ? En fait, les quatre femmes se sont en tout premier lieu montrées soucieuses de donner une apparence extérieure d'impartialité, c'est-à-dire qu'elles considéraient, par exemple, que le devoir d'impartialité leur enjoignait d'aménager leur vie personnelle de façon à garder celle-ci relativement discrète et de se montrer attentive à ne pas subir de pressions extérieures, des pressions, par exemple, médiatiques ou du parquet. Je vous lis rapidement l'extrait qui est à gauche de l'écran. « Ma vie personnelle a changé depuis que je suis magistrate. Alors, je ne suis pas politisée, mais je suis colorée quand même. Mais je ne vais plus à rien qui soit politisé depuis que je suis magistrat, ou à des choses dont on pourrait déduire que je suis plus à gauche, plus de gauche ou plus de droite, plus chrétienne qu'athée. Il y a plein de choses que je ne fais plus dans mon quartier. J'hésite même à aller à la fête du progrès. » Pour moi, c'est ça la définition de l'impartialité, c'est la transparence. On doit se comporter comme les personnes les plus parfaites dans la vie de tous les jours pour qu'on ne puisse pas nous reprocher quelque chose. Il faut donner le moins de possibilités de prise aux gens. Tandis que les magistrats hommes, eux, vont davantage considérer l'impartialité comme quelque chose qui est purement limité en fait à leur sphère professionnelle et qu'ils doivent appliquer dans leur pratique quotidienne, mais dans le cadre de l'affaire qui les occupe seulement. Comme vous le voyez dans les extraits ici, un juge homme dira donc l'impartialité, c'est de n'être ni d'un côté ni de l'autre, et moi je ne suis ni pour l'un ni pour l'autre. Je décide à partir des règles de droit et des faits qu'on me prouve ou qu'on ne me prouve pas, punt. Donc, par ailleurs, trois juges femmes ont également reconnu explicitement qu'elles refusaient de s'affilier à un parti politique ou à un syndicat pour garder justement cette apparence d'indépendance et une certaine liberté d'esprit, comme vous pouvez le lire à gauche. Par contre, un seul homme expliquera que, et seulement dans un deuxième temps, après un assez long moment à discuter, qu'il refuse également d'être associé à un parti politique et que son devoir d'impartialité, le devoir d'impartialité peut avoir une influence sur la manière dont il mène sa vie personnelle. Et enfin, deux juges hommes vont reconnaître sans aucune réticence qu'ils sont effectivement affiliés à un parti politique et qu'ils ont bénéficié d'une nomination politique à l'époque où le Conseil supérieur de la justice n'existait pas encore et qu'ils n'ont aucun souci à se rendre à des manifestations d'ordre politique. Donc on voit donc ici une certaine différence qui imprègne les hommes et les femmes. Et ce constat mérite que l'on rappelle que durant toute leur histoire professionnelle, les femmes magistrates ont plus souvent été soupçonnées d'un manque d'impartialité, non seulement par le justiciable, mais aussi par l'institution tout entière. Et aujourd'hui, en tout cas de ce qui ressort de ces entretiens, les hommes se montreraient toujours moins préoccupés de l'image qu'ils peuvent véhiculer en dehors de leur pratique professionnelle, en dehors de leur sphère professionnelle, se souciant principalement d'exercer le devoir d'impartialité dans le cadre précis de l'affaire qui les occupe, tandis que les femmes semblent s'inquiéter davantage de ce que l'on pourrait penser d'elles en dehors du tribunal, faisant par exemple prévaloir la nécessité de résister aux pressions extérieures ou de mener une vie personnelle plus rangée et plus neutre, comme si elles devaient davantage gagner leur légitimité, non seulement dans le cadre professionnel, mais aussi au sein de l'espace public, dans lequel leur légitimité a plus souvent été remise en question, et puisque les femmes sont traditionnellement, on va dire, ont été plus longtemps cantonnées à la sphère purement privée. Alors, deuxième point sur lequel je voudrais revenir avec vous aujourd'hui. Sur le genre, dans l'influence du genre dans la justice familiale. Alors, tout d'abord, notez que si l'intégralité des magistrats reconnaît que effectivement, leur expérience personnelle ou leur personnalité peut avoir une influence sur la manière dont ils exercent leurs fonctions. Par contre, une majorité, donc 7 sur 10, se montre beaucoup moins enclin à faire la même déclaration concernant leur genre et disent clairement qu'ils pensent que leur genre n'a pas d'influence dans la manière dont ils exercent leurs fonctions. On remarque donc une sorte de dissonance dans les réponses entre l'impact potentiel de l'expérience et l'impact potentiel du genre. On peut donc se poser la question de comment il est possible pour ces magistrats et pour toute personne en général de stériliser en quelque sorte l'influence de son genre dans la construction de son expérience et de sa personnalité. Mais au-delà de cette question, on voit que tous vont par contre considérer que le genre peut avoir une influence particulière dans certains contentieux, et spécifiquement le contentieux familial que je vais voir avec vous aujourd'hui. Alors juste par souci de concision et peut-être de compréhension pour les auditeurs qui ne sont pas accoutumés aux spécificités du système judiciaire belge, mais je vais ici utiliser pour faciliter les choses le terme générique de juge de la famille, même si en Belgique on distingue en tout cas encore pour l'instant entre les juges du divorce et les juges de la jeunesse, et même au sein des juges de la jeunesse il y a le contentieux protectionnel et le contentieux civil, mais je vais donc utiliser le terme général de juge de la famille. À propos de l'influence du genre dans le contentieux familial, il faut aussi distinguer deux questions différentes que les magistrats mixent souvent dans une même réflexion. D'une part, il me semble qu'il y a la question de savoir si le genre du magistrat influence la manière dont se déroule le processus judiciaire en matière familiale. Et puis, il y a la question de la surféminisation, de la surreprésentation des femmes au sein de la magistrature, qui, elle aussi, peut poser certains problèmes. Donc je vais essayer de remettre de l'ordre là-dedans, mais ce n'est pas toujours évident, et la frontière est effectivement parfois ténue entre ces deux problématiques. Alors, il y a tout d'abord la conception très largement répandue chez les magistrats, donc chez 8 sur 10 d'entre eux, que la fonction du juge de la famille est une fonction particulière dans laquelle le genre peut jouer un rôle différent que dans d'autres types de mandats. Par contre, seuls deux juges de sexe masculin vont considérer que cet impact du genre peut se situer dans le chef de magistrat lui-même, comme l'illustre l'extrait que j'ai choisi ici. Donc c'est un juge homme qui parle. Je suis convaincue, mais je ne sais pas le démontrer, que je suis plus tolérant vis-à-vis des jeunes filles que mes collègues féminines vis-à-vis des jeunes filles. Depuis 22 ans, j'en suis convaincue. Je crois quand même que le sexe change la décision. On se projette par rapport à la fonction de juge de la jeunesse. Bon, pas pour les autres juges, parce qu'en construction, ça n'a rien à voir, par exemple. Mais on se projette nécessairement. Même si on essaie de s'en défendre, on se projette par rapport aux jeunes qu'on a devant soi. Je pense qu'une femme juge de la jeunesse est plus sévère avec une jeune fille qu'un juge de la jeunesse qui sera peut-être un peu plus tolérant. Je pense que c'est plutôt se projeter en tant que femme sur une autre femme en devenir. Donc ici, c'était un premier extrait. Donc très peu de juges reconnaissent l'influence du genre. Donc seulement deux juges reconnaissent que l'influence du genre peut provenir du magistrat. Par contre, une beaucoup plus grande proportion, donc 6 sur 10, considère que si le genre n'a pas d'influence, par contre, le fait d'être parent, d'être père ou mère, peut donner une qualité supplémentaire au travail de juge en matière familiale. Il y a deux juges femmes, qui a des enfants et l'autre pas, qui vont catégoriquement rejeter cette assertion. Et l'une d'entre elles dira « C'est comme il y en a qui font des matières familiales et qui n'ont pas d'enfants. Il y en a qui vivent seuls. Est-ce qu'on va mieux comprendre parce que soi-même on est divorcé ou séparé? Est-ce qu'on va mieux comprendre parce qu'on a des enfants? Ou alors est-ce qu'au contraire on est plus neutre à l'égard de tout le monde parce qu'on vit seul? Non, on est censé quand même ne pas être influencé à ce point-là. » Donc ça c'était un premier tour d'horizon. Un deuxième point qui ressort de l'étude est que tous les magistrats reconnaissent par ailleurs à l'unanimité que le genre peut avoir un impact particulier vis-à-vis de certains justiciables. Donc on touche par contre plus souvent ici à la question, comme j'ai dit tout à l'heure, de la surreprésentation des femmes dans le contentieux plutôt qu'à celle de l'influence du genre en tant que telle. Donc, à partir des entretiens, trois catégories de justiciables ont été relevées, deux vis-à-vis desquelles ce serait la surféminisation, la surreprésentation des femmes dans le contentieux qui poserait problème, et une dans laquelle ce serait là, véritablement le sexe même du magistrat qui poserait problème. Donc, six magistrats, trois hommes, trois femmes, ont relevé qu'une justice familiale qui était rendue par une majorité de femmes pouvait être problématique pour des hommes ou des pères en général. Donc, ce qui poserait problème, ce n'est pas tant que le juge soit une femme, mais bien qu'il y ait une majorité de femmes qui interviennent au quotidien dans la justice familiale, remettant ainsi en cause la féminisation des acteurs de la justice familiale en général. Donc il y aurait trop de greffières, trop de procureurs, trop d'avocates, et l'homme ou le père se retrouverait donc en quelque sorte cerné par des femmes, et cela aurait un impact négatif sur l'image de la justice. Alors, dans le même ordre d'idée, quatre juges, donc deux hommes, deux femmes, invoquent qu'il peut être difficile pour un jeune garçon de n'être entouré que de personnes de sexe opposé, donc remettant ici une nouvelle fois en cause la surféminisation de la justice familiale en général. Et alors, six juges, de nouveau trois hommes, trois femmes, constatent qu'il est parfois plus difficile pour certains justiciables d'origine étrangère. Quatre viseront expressément les Marocains, un autre utilisera le terme musulman. Donc il peut être plus difficile pour certains justiciables d'origine étrangère de se retrouver face à des juges femmes vis-à-vis desquels ils sont plus rétifs à parler ouvertement ou dont ils rejettent l'autorité. Donc ici, ce n'est pas la surreprésentation en soi qui est remise en cause, mais bien le sexe même du magistrat, comme vous pouvez le lire dans les deux extraits ici. Par faute de temps, je ne vais peut-être pas m'apesantir sur la lecture, mais dans le deuxième extrait, vous voyez qu'une juge relève par ailleurs qu'elle se retrouve relativement souvent face à des parents d'origine africaine qui l'appellent « monsieur le juge ». Certains magistrats évoquent aussi, dans le cas de ces problèmes d'autorité vis-à-vis de certains justiciables, qu'il y a eu lieu à des transferts de dossiers d'une magistrate femme vers un magistrat homme. Mais ça reste quand même relativement marginal et d'autres juges contestent tout à fait cette pratique. Mais donc revenons à la question de la surreprésentation des femmes dans le contentieux familial. Pourquoi est-ce que celle-ci poserait problème? Puisqu'en effet, tous les juges affirment que, de manière générale, celle-ci ne devrait pas poser de problème en soi, mais qu'elle peut poser certains problèmes à l'égard de certains contentieux. Alors, il me semble que l'extrait que je vous ai mis ici en haut sur la diapositive donne un début de réponse. Alors, c'est elles qui sont mamans. Quand on a des divorces avec des enfants, elles peuvent mieux comprendre certaines choses dans certaines chambres. Dans les dossiers très techniques, comme les contrats, il n'y a pas de différence. C'est une question de compétences techniques. Elles sont aussi compétentes que les hommes et inversement. Alors, en réalité, la surféminisation de la fonction ne poserait pas de problème dans les contentieux plus techniques où il s'agirait tout simplement d'appliquer ses compétences ou ses connaissances purement juridiques. Dans ces contentieux où le juge, donc dans les contentieux où le juge incarnerait justement cette fameuse image de la bouche de la loi, son genre ne poserait pas de problème. Par contre, dans les contentieux qui ont cette image d'être moins juridique et où le juge doit impliquer davantage de sa personne et où son rôle est parfois assimilé à celui d'un assistant social, comme l'ont révélé presque l'entièreté des juges interrogés. Le genre devient un enjeu. Donc c'est donc dans les contentieux où le juge doit en quelque sorte se mouiller et que sa neutralité ou son impartialité peut être suspectée et que la question de la présence des femmes est alors remise à l'ordre du jour. Donc on rejoint ici l'idée que les femmes ont du mal à gagner leur légitimité dans cet espace. Alors, je terminerai par l'extrait que vous avez ici aussi, qui illustre une nouvelle fois cette idée de compétence technique versus compétence humaine, et que les femmes doivent continuer de gagner leur légitimité dans l'espace public du fait de l'association qui est faite avec la question de la visibilité de la justice et de l'image qui est donnée aux justiciables. Pour moi, ce n'est pas un problème, mais peut-être pour certains justiciables. Celui qui va pour un bail, il n'y a pas de problème. Mais le père qui va pour la garde de ses enfants, il peut se dire que ça ne va pas qu'il n'y ait qu'une majorité de femmes, même s'il n'en est rien et qu'il sera autant pris en considération. Après ça, il y a le fait et il y a le sentiment de justice et d'équité qui doit naître. C'est plutôt dans ces matières-là que ça peut être plus ou moins sensible que le reste, a priori, où on parle de compétences fiscales, patrimoniales. Tout ça n'a pas de sexe pour le justiciable. Je ne pense pas à d'autres choses en dehors des juges de la famille qui pourraient déstabiliser le justiciable parce que le juge est une femme. Donc l'ensemble de ces considérations rejoint en fait les constats qui ont été posés par Bessière et Mille, qui est que d'une part les juges interrogés... je vais passer à la conclusion. Les juges interrogés se sont rarement interrogés sur l'influence du genre dans l'exercice de leur fonction. Et lorsque cette question leur est soumise, ils y répondent en général par la négative, dévoilant donc davantage leurs inquiétudes vis-à-vis des difficultés qu'engendrerait une justice trop féminisée et à sa visibilité. Mais la plupart se bornent à déclarer que ce n'est pas un problème en soi, mais bien un problème d'apparence et d'image donnée aux justiciables. Imperceptiblement, on semble vouloir dire que ce n'est pas l'institution judiciaire qui a un problème avec la présence majoritaire, mais bien le justiciable. On retrouve un peu ici le même argument qui a été évoqué par Adélaïde Hermiche dans sa présentation inaugurale, qui est celui de la confiance du public dans la magistrature. Et elle n'est pas utilisée ici comme en 1946 pour... refuser l'accès des femmes à la magistrature, ni comme en 2011 pour encourager la présence des femmes dans la magistrature, mais bien pour condamner ou en tout cas remettre en perspective la question de la surféminisation de la magistrature. Donc évidemment, il faut accorder une attention particulière aux représentations que le public se fait de la justice, mais il me semble quand même que cette question de la visibilité et de la vision des justiciables mériterait d'être traitée plus en profondeur avant de l'utiliser pour en tirer des conclusions peut-être hâtives et qui relègueraient en fait la question du genre dans un traitement de seconde zone, comme l'illustre l'extrait d'une juge qui me dira à la fin d'un entretien qu'elle pense finalement que le fait d'être un homme ou une femme juge est peut-être plus important dans les yeux de l'extérieur, du justiciable et du politique ou de celui qui veut en faire un commentaire que dans le nôtre. J'ai l'impression, mais comme pour beaucoup de choses, que c'est aussi le miroir qui joue plus que le sujet lui-même. Alors, est-ce qu'il faut inférer de cette dernière considération que le genre constitue un non-objet pour les juges ou qu'au contraire, un certain tabou semble persister quant à la question du genre dans la magistrature belge? Alors évidemment, la complexité et la multiplicité des relations, des représentations par contre, pardon, qui sont véhiculées par les juges autour de la question du genre nous signifie en effet que ce n'est pas le fait en soi d'être un homme ou une femme qui fait la différence, mais il nous révèle quand même un ensemble de constructions sociales façonnées autour de la question du genre qui sont loin d'être anodines dans la fonction judiciaire et qu'il est grand temps, à mon avis, de s'y attaquer à bras-le-corps. J'en terminerai donc par rappeler à la réalisation d'études de plus grande envergure et d'associer à sa recherche, évidemment, le monde judiciaire. Merci beaucoup pour votre attention.
Voilà, merci à toutes. Je vous avais annoncé une session passionnante et j'espère que vous n'avez pas été déçus ou déçus. Moi, j'ai trouvé ça, en tout cas, extrêmement stimulant. Alors, on a un petit peu de retard, pas trop, mais donc je vous propose quand même de rogner sur le temps initialement prévu pour notre pause café. Et donc, je reprendrai les travaux et j'aurai le plaisir de céder la parole à Thomas Léonard à 16h maximum. Voilà, bonne pause à tous et toutes.